Bon début de semaine à tous. Clôture hier dimanche à Addis Abeba du sommet de l'Union africaine. Félix Tshisekedi a pris la présidence de cette institution africaine pour une année. Dans son discours, le chef de l'État a axé sa politique pendant cette présidence sur trois points, à savoir lutter contre la pandémie de Covid-19, imposer la paix dans des zones caractérisées par des conflits armés et récupérer le patrimoine culturel africain confisqué pendant la colonisation. Comment analyser ses priorités? Quels sont les enjeux de la présidence de Félix Tshisekedi à l'Union africaine sur le plan national et sur le plan africain? Nous en parlons ce soir dans le dialogue entre Congolais avec le professeur Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur Chiembe, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur Maindo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Alain Parfait Ngulungu, chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Il est aussi secrétaire exécutif de l'Association congolaise des sciences politiques. Alain Parfait Ngulungu, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Clément Chabat, politologue, qui dit ceci. Bonjour Radio Okapi, je pense que le président de la République et actuel président de l'Union africaine a raison d'axer sa politique sur ces différents points parce que ce sont des grands défis auxquels toute l'Afrique devrait se pencher pour pouvoir les relever. Le Raïs John Kevara, l'Union africaine n'est qu'une charge de plus pour un président très surchargé par les problèmes de son pays. Merci de nous suivre, partenaire d'essai sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioecapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine. Radio
Capi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La 34e session ordinaire de l'Union africaine s'est clôturée hier, 7 février, à Addis Abeba. La deuxième et dernière journée a été marquée par la prestation de serment du président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, et la vice-présidente Monique Sanzabanganwa du Rwanda. Dans son discours de clôture, le président d'exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, a rappelé les trains de décisions prises lors des travaux. Elles sont notamment liées à la pandémie de Covid-19, la culture, la paix et la sécurité sur le continent. Billy Van Lutumba nous en dit plus.
Covid-19 et la problématique de la vaccination des populations africaines a animé les débats du fait des défis liés à cela. C'est notamment la recherche des vaccins, le financement et le scepticisme des populations à accepter le vaccin. Quelques mesures prises avec le président de l'UA, Félix Tshisekedi.
La mise en œuvre effective de la stratégie continentale commune, le renforcement du Fonds africain pour la Covid-19, une plateforme africaine pour l'acquisition des matériels médicaux et l'accélération des tests de Covid. L'Assemblée a approuvé le travail effectué par la Task Force africaine, groupe nouvellement créé pour l'acquisition des vaccins.
Comme décision en rapport avec le thème de l'année 2021, en l'occurrence, art, culture et patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons.
Obtenir la restitution et le rapatriement des œuvres d'art africains gardées hors continent.
Le nouveau président en exercice a clôturé les travaux par cette exhortation.
L'Afrique doit s'affirmer unie, forte, solidaire, stable et prospère, tout en vous renouvelant mes voeux les meilleurs, ainsi que pour vos peuples respectifs. En cette année, je déclare close la 34e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.
Signalons que le retour de l'actuel président de l'Union africaine ici à Kinshasa est prévu pour ce lundi 8 février.
Merci Billy Yvon Lutumba pour ce reportage. Dialogue entre Congolais se veut aussi une émission pédagogique. Alors, chers professeurs, chers invités, vous allez aider les auditeurs à comprendre le fonctionnement de cette organisation africaine. Professeur Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur Félix Tshisekedi, président de la RDC, mais depuis samedi 6 février dernier, président d'exercice de l'Union africaine. Quelles sont d'abord vos premières impressions?
Ben, il faut dire que il y a quand même un cocorico, hein, quand on est congolais, de dire voilà, c'est la première fois depuis 1960, l'indépendance de la République démocratique du Congo, jusqu'à ce jour, c'est la première fois qu'un président de la République démocratique du Congo assume la responsabilité au niveau de l'Union en tant que président en exercice. Certes, c'est un mandat provisoire, mais ce cocorico vient couronner le rayonnement de la diplomatie de la République démocratique du Congo. C'est au moins ça de gagner, en attendant, bien entendu, de savoir ce que l'avenir pourra dire. Un autre cocorico va dans le sens de la vision qu'il a voulu imprimer en transposant son mot d'ordre de peuple d'abord sur le plan continental. Pourquoi ? Parce que en posant qu'il faut que l'Union africaine favorise l'avenir des peuples africains, il rejoint la critique récurrente, que ce soit de nos étudiants ou des chercheurs, y compris même l'opinion qui pense que l'Union africaine qui a pris succession de l'OUA n'est qu'un syndicat de chefs d'État. Ces gens-là ne s'intéressent qu'à leurs affaires, le peuple ne leur dit rien. Alors, en remettant le peuple au cœur de cette préoccupation, il rejoint en fait le préambule de l'acte constitutif de l'Union africaine, qui pose que si l'Afrique veut demain s'engager dans la mondialisation et mener cette bataille de la mondialisation, l'Afrique doit mobiliser les forces vives. Et qui sont ces forces vives? Il y a les femmes en premier, les jeunes et en trois, les entrepreneurs. Donc la charte est déjà claire et ce qu'il vient de dire sur le peuple d'abord rejoint effectivement cette mobilisation qu'il faille mener par les États africains et leur peuple à leur corps défendant pour pouvoir donner de la perspective africaine. Évidemment, il y a la précarité du mandat qu'il faut souligner d'entrée de jeu. Certes, ça permet d'indiquer le chemin et d'inciter une mobilisation, mais ce n'est qu'un mandat provisoire, il faut toujours l'avoir en tête. Et alors, le défi d'investir sur l'homme, parce que qui dit peuple d'abord veut dire investir sur l'homme. C'est l'inversion des contraires. Parce que jusqu'à présent, les dirigeants africains, que ce soit dans leur politique nationale, évidemment, ils parlent aussi du peuple ou d'autres choses encore. Mais pour que les peuples soient le cœur de l'avenir de l'Afrique, il faut investir sur l'homme. Alors, investir sur l'homme, vous savez que madame me dit que gouverner, c'est prévoir, mais prévoir, c'est savoir. Pour que quelqu'un puisse prévenir, il doit savoir. Or, on n'a pas l'assurance que dans les pays africains, il y a une sorte d'alliance entre ceux qui gouvernent et ceux qui produisent le savoir, c'est-à-dire les écoles, les instituts supérieurs, les universités, leurs laboratoires, les facultés, etc., qui doivent être mobilisés pour produire la connaissance à partir de laquelle les États peuvent prendre des décisions à court, moyen et long terme. Voilà ce que je peux dire d'entrée en attendant, bien sûr, d'aller sur le fond des sujets.
Alors, professeur, il y a une certaine opinion qui estime que c'est une charge de plus pour le président Tshisekedi alors qu'il a beaucoup de problèmes à résoudre dans son pays.
Non, on peut dire que qui peut le plus peut le moins. Il est déjà président de la République démocratique du Congo. Certainement, il y a des tâches encore ardues comme perspective pour lui chaque jour, mais représenter la République démocratique du Congo au niveau continental, c'est aussi une obligation. Il ne faut pas toujours voir à côté de sa maison ou au-delà de sa propre cour. Ce pays, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays, même si par malheur, depuis l'indépendance, il ne s'est pas donné les moyens de jouer ce rôle d'aiguillon de l'avenir de l'Afrique, il n'en demeure pas moins que c'est une tâche exaltante, même si elle est temporaire, comme je veux le dire. Je pense qu'il n'y a pas de quoi lui faire le reproche. On peut penser qu'il est capable de combiner ce qu'il doit faire les mains dans le cambouis chaque jour pour la RDC et ce qu'il peut faire par ailleurs pour le continent durant ce mandat.
Félix Tshisekedi, dans son discours, il a axé sa politique pendant cette présidence sur trois points, à savoir lutter contre la pandémie de COVID-19, imposer la paix dans les zones caractérisées par des conflits armés et récupérer le patrimoine culturel africain confisqué pendant la colonisation. Professeur, comment vous analysez ces priorités du président Félix Tshisekedi?
Évidemment, le premier défi qui consiste à lutter contre le coronavirus, déjà la charte même de l'Union africaine posait le problème des pandémies qui menacent l'avenir de l'Afrique et demandait aux chefs d'État et de gouvernement de se mobiliser pour que l'Afrique se donne les moyens un jour de faire face à ces pandémies. Nous y sommes. Non seulement la République démocratique du Congo a fait preuve de résilience dans la lutte contre Ebola, il y a un savoir-faire congolais, même si, toutes choses étant égales par ailleurs, n'est pas valorisé par les Congolais même qui n'en parlent pas. Le monde entier reconnaît la capacité, la connaissance, la maîtrise de cette pandémie par les Congolais qui ont un savoir-faire. Évidemment, comme toutes les pandémies, il y a des va-et-vient, et on vient de parler encore du retour de cette pandémie alors qu'on avait clos le chapitre il y a moins d'un an. Donc, il inscrit l'action dans la réalité d'aujourd'hui. Alors, quelles peuvent être les priorités pour son mandat? C'est de faire en sorte que la question de l'accès des populations aux vaccins, qui est un problème réel, regardez ce qui se passe en Europe, la France, l'Union européenne en général, l'Allemagne et bien d'autres pays, c'est un peu casse-caillant aujourd'hui. Les États se regardent, on a fait des commandes, le vaccin n'est pas encore là, il y a des critiques. Si vous lisez la presse ou les médias européens, la Commission est au pilori, y compris leur président. Alors, le président qu'il vient de succéder, c'est-à-dire Ramaphosa, avait sonné l'alarme en disant, voilà, nous avons des pays sinistrés, mais le vaccin va ailleurs et que ces pays commandent plus qu'ils n'en ont besoin. Alors, pour l'instant, il faut dire que la balle n'est pas seulement dans le champ de ces pays-là, la balle est aussi dans le camp africain. Parce que quand le pays où l'économie se porte bien, très peu de nos dirigeants mettent les moyens de côté pour s'attaquer aux problèmes de l'avenir, y compris ces pandémies. On dépense. Alors le jour où la pandémie est là, on n'a pas les moyens, donc on est obligé de se tourner à l'extérieur. Et Dieu sait combien des campagnes électorales ont vilipendé l'extérieur, la dépendance, nos pays sont souverains, c'est vrai. Mais la souveraineté n'est pas seulement l'assurance d'avoir le droit de dire ce qu'on a à dire. C'est aussi le droit de faire. C'est qu'on est en droit d'attendre vis-à-vis de ces populations, c'est-à-dire c'est donner les moyens de sa politique.
Professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani, quel pourrait être l'apport de la RDC afin d'aider cette organisation à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, notamment faire taire les armes?
Oui, merci beaucoup madame. Je pense que c'est une question très 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 pertinente. J'ai presque envie de me dire, on se met dans une situation très 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 délicate là, puisqu'il y a bon nombre de choses que nous qui sont placées dans ces mandats au cœur du continent africain, qui sont en fait des problèmes congolais et qui n'ont jamais trouvé de solution durable depuis de longues années. Hein. Par exemple, la question de la pacification, de l'imposition de la paix. Puisque ça fait une vingtaine d'années maintenant que nous avons les Nations Unies ici, on n'arrive pas à stabiliser la RDC en termes de sécurité. Et il y a chaque jour des gens qui meurent, qui sont massacrés. Et j'ai suivi encore l'année dernière, il y a eu des massacres dans Beni. Donc on peut se poser la question de la capacité réelle. Et qu'est-ce que nous allons pouvoir vendre sur ce plan-là pour faire les choses? Alors, mais je pense que nous avons un certain nombre d'atouts aussi par rapport à cette question de, même si nous n'arrivons pas vraiment à résoudre cette question, nous avons quand même l'expérience de tous ces différents dialogues que nous avons pu avoir et dans ces pays qui ont permis notamment de sauver l'unité du pays. Et parce qu'autrement, les pays auraient déjà implosé hein, et éclaté en plusieurs entités. Et donc, je pense que là, nous avons quelque chose à partager avec d'autres pays qui sont déchirés par des conflits armés, cette volonté de rester ensemble malgré toutes les difficultés, tous les problèmes que l'on peut rencontrer. Mais également, ce qu'on peut aussi partager, c'est toutes ces expériences d'intégration, réintégration des miliciens dans les forces armées pour montrer qu'en fait, c'est une grosse erreur, voyez-vous, que de vouloir constituer des armées nationales sur base de miliciens qu'on récupère à gauche, à droite pour faire des brassages, des mixages. Mais ça ne donne jamais des résultats attendus. Et donc, on a là, si vous voulez, des leçons en termes de capitalisation que nous pouvons partager avec la communauté africaine tout entière sur le sujet. Mais je pense que le fait que le Congo soit donc aujourd'hui, pour une année, à la tête du continent africain, donc de l'Union africaine, c'est une bonne chose. Ça montre bien les efforts que nous avons, donc, que ces pays mènent pour tenter de revenir sur la scène panafricaine. Parce que ça fait vraiment de longues années depuis le départ de Mobutu que la voix de la RDC ne porte plus vraiment sur le continent. Et donc nous, même quand on s'agit de l'Afrique centrale, parce que l'Union africaine fonctionne sur base des régions. Et dans cette, pour la région Afrique centrale, c'est les Zaïre. C'est la RDC qui était la locomotive. Et pendant de longues années, depuis la création de l'Union africaine, avant c'était l'Organisation de l'Unité africaine. Mais là, voyez-vous, nous avons été relégués. D'autres pays nous ont pris la place, nous ont volé la place, j'allais dire. Donc l'Angola, le Rwanda, tous ces pays-là. Maintenant, il faut que l'on revienne. C'est une bonne chose que l'on ait décidé de revenir. Maintenant, pour revenir avec efficacité, professeur, nous avons encore à travailler beaucoup sur nous-mêmes.
Alors,
à beaucoup travailler sur nous-mêmes.
Oui.
En termes de puissance, oui.
Professeur, il y a beaucoup de défis à relever. En une année, pensez-vous que le président d'exercice de l'Union africaine puisse atteindre ses objectifs?
Bon, écoutez, je pense que même avec la meilleure bonne volonté du monde, un président de l'Union africaine ne peut pas réaliser toutes ses ambitions. C'est encore, pour moi, c'est encore un chapelet d'intentions, de bonnes intentions. Tous les chefs d'État qui ont pris la tête de l'Union africaine depuis la création de l'Union africaine ont toujours fait de très bonnes promesses, ont toujours fait des priorités, mais on en est bien loin. Parce que un des plus grands défauts de l'Union africaine depuis la fondation, depuis l'Organisation de l'Unité africaine, c'est d'abord la volonté des États, des chefs d'État, de pouvoir contribuer au fonctionnement de l'institution et de donner les moyens à cette institution-là. Lorsque l'institution veut fonctionner, sur des budgets des partenaires extérieurs, l'Union européenne et d'autres partenaires, ou la Chine, ben on ne peut pas avoir les moyens de notre politique. Et donc là, nous avons un grand défi. Pourquoi les États africains ne contribuent pas aux vraies charges pour faire fonctionner leur entité, leur organisation? Et donc, ça va rester, encore une fois, des chapelets d'intention. Et on le voit, d'ailleurs, dans les discours du président. Lorsqu'il il a dit, entre autres, il a parlé d'imposer la paix, tout ça. Et je ne sais pas si c'est une omission ou c'est un volontaire ou c'est voulu. Hein. Il n'a pas parlé de l'Éthiopie qui fait face actuellement à une crise majeure avec l'intervention de l'Érythrée aussi en appui aux forces gouvernementales dans les Tigrés. Il n'en a pas parlé. Donc, ça veut dire que simplement...
Il a parlé de faire taire les armes en Afrique.
Il n'a pas parlé non plus de notre propre problème à nous, à RDC,
en tant que
pays qui est donc en conflit.
Professeur,
nous avons beaucoup de conflits à l'intérieur du pays, beaucoup de violence et tout ça.
Ça
montre bien que c'est un jeu très difficile. Il doit faire un peu d'équilibrisme pour ne pas froisser, pour ne pas. Et les moyens font défaut. Et donc, moi, je le sais, et lui, comme tous ses prédécesseurs, tant qu'on n'aura pas les moyens et la volonté pour mener une politique de bien, eh bien, on ne pourra pas faire. Et vous, par exemple, moi je pense, pour la lutte contre la pandémie de Covid-19, si on avait par exemple un fonds panafricain pour les maladies, ou si on avait par exemple, on imposait une taxe, par exemple pour ça là, que tous les Africains paieraient, et qui financerait ces fonds-là de manière à permettre de faire face à ces pandémies. Mais à chaque fois, c'est toujours on doit compter sur l'étranger. Or, en ce moment, pour la pandémie, nous avons un gros souci, parce que ça touche tous les États du monde. Et chacun est d'abord préoccupé par ses propres citoyens. pour ses propres nationaux dont il doit prendre soin. Et du coup, nous autres, les pays africains, nous sommes livrés à nous-mêmes. Donc on n'aura pas l'aide comme on l'espérerait si ça ne touchait pas notre pays. J'ai entendu les collègues Moïna Tiembe parler de l'expérience du Congo en matière d'Ebola. Là encore, c'est la même chose. Ebola, qui finance le projet d'Ebola au Congo? C'est toujours les expatriés, les partenaires étrangers. Et c'est différent aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, on n'a pas l'expertise en matière de Covid, mais en plus, on manque les moyens pour faire ça. Et donc, ça va dans tous les sens, c'est ce qu'on remarque là. Et pour moi, l'Afrique ne pourra pas résoudre ce problème. Heureusement que nous avons un certain nombre de facteurs structurants qui nous permettent de limiter les effets de la pandémie. C'est par exemple la jeunesse de notre population, c'est par exemple une faible mobilité parce qu'il y a peu de gens qui se déplacent sur le continent et qui et les pays qui sont les plus touchés sont les pays qui ont une plus grande un plus haut niveau de développement. L'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, voyez-vous, ces pays-là sont les plus affectés parce qu'ils sont ouverts sur le monde. Et donc nous avons la chance d'avoir une jeunesse mais aussi d'être un peu enclavé, si je veux dire entre guillemets. Donc on n'a pas beaucoup de mobilité.
Merci professeur Maïndo Alain Parfait Ngulungu, chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Vous êtes aussi secrétaire exécutif de l'Association congolaise de sciences politiques. Alain Parfait, que pensez-vous des priorités du président Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine? Lutter contre la pandémie de COVID-19, imposer la paix dans des zones caractérisées par des conflits armés et récupérer les patrimoines culturels africains confisqués pendant la colonisation.
Oui, merci madame. Avant toute chose, j'aimerais saluer mes aînés scientifiques, en l'occurrence le professeur Moïla Tshiembe et le professeur Alphonse Maïndo que je connais personnellement très bien. Ce sont des Congolais merveilleux qui font l'honneur de notre pays à travers le monde, et donc je suis très heureux de participer avec eux dans ces débats. D'emblée, ce que j'aimerais dire, c'est pour moi d'abord une énorme joie de pouvoir voir la présidence de l'Union africaine être assurée par l'un de nos compatriotes, la personne du président de la République, chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est là après plusieurs années, depuis 67, que Mobutu a été président de l'Union africaine. À l'époque, c'était l'organisation de l'Union africaine. Alors, parmi ces priorités, je suivis avec beaucoup d'attention le discours du président lors de ces actes-là. Je crois que par rapport d'abord à la COVID, à la pandémie de COVID-19, le président de la République a une grande responsabilité. Parce que en assurant ses fonctions, il est appelé avec la deuxième vague violente de la pandémie COVID-19, il doit faire face maintenant à de nouvelles propositions, à de nouvelles solutions pour justement voir dans quelle mesure l'on peut contourner les conséquences que nous avons aujourd'hui par rapport à la deuxième vague qui est, selon les spécialistes, assez violente par rapport à la première vague. Mais aussi, il faut voir dans quelle mesure certains pays africains vont résister à cette pandémie, dans quelle région le taux de létalité est-il plus élevé et quelles sont les réponses rapides à donner. Et donc, dans cette sorte d'imbroglio, le président de la République est appelé, en assumant ses fonctions, de pouvoir recommander à l'Union africaine des mesures idoines justement pour faire face à cette seconde vague de la pandémie. Mais il est vrai aussi, quant à nos savoirs endogènes, quant à nos pratiques au niveau local, nous avons des solutions qui ont démontré de quoi l'Afrique est capable de faire face à cela, mais qui malheureusement n'est pas exploitée. Je crois qu'à travers sa présidence, il peut faire la promotion des savoirs endogènes, notamment par la trouvaille des médicaments comme ici en RDC, on parle de Manacovid, mais dont personne en Afrique n'est fait la promotion. Je crois que le président de la République aura aussi cette promotion, cette responsabilité-là, de faire la promotion des résultats des recherches en ce qui concerne la lutte contre la COVID-19. En ce qui concerne les questions liées à la paix dans les zones caractérisées par les conflits armés, et là c'est regrettable, j'ai suivi avec attention le discours du président de la République, nulle part il fait allusion à ce qui se passe à l'Est. Il n'y a pas une semaine il y a eu encore des morts à Beni, à peu près 5 personnes qui ont été tuées dans des conditions inacceptables à cause justement de cette insécurité qui gangrène depuis plusieurs années cette partie du territoire national. Il aurait été souhaitable, en parlant des problèmes de paix en Afrique, que le président de la République fasse mention aussi de la situation de la RDC, son pays, parce que la RDC doit montrer un exemple. La RDC doit partager avec le monde africain comment nous faisons face à ces conflits armés. Depuis plus d'une vingtaine d'années, que nous sommes en face de l'insécurité dans la partie orientale. Et donc, le président de la République aurait mieux fait...
Il a évoqué ça dans son discours à l'impact.
Comment la République démocratique du Congo est résiliente par rapport à l'insécurité qui gangrène la partie est du pays.
Si vous avez bien suivi le discours du chef de l'État, il a évoqué l'insécurité dans la partie est de la RDC.
Oui, mais l'évoquer seulement, ça ne suffit pas. C'est une problématique assez gravissime par rapport aux conséquences désastreuses sur la paix et la sécurité dans la partie est du pays. N'eût été la résilience populaire et l'activisme des mouvements citoyens, cette partie serait expropriée du territoire national. Et donc, ces bonnes pratiques, cette manière de résister à une guerre inconnue, est aussi pour nous un avantage, aussi bien en ce qui concerne notre capacité de faire face à cette insécurité, mais le président de la République doit s'inspirer de cela pour justement voir dans quelle mesure suivre, par exemple, ce qui va se passer cette année en Libye, où il est prévu en décembre une élection. L'élection à nos portes ici au Congo-Brazzaville, c'est une opportunité. Si elle est très mal gérée, ça peut déboucher, je ne le souhaite pas, sur des conflits. Et donc, beaucoup d'autres problèmes. On parle de la Centrafrique aujourd'hui. C'est une grande question d'insécurité qui est déjà à nos portes au nord du pays. Et donc, il va suivre cela avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de sagesse pour voir dans quelle mesure l'Union africaine doit trouver des moyens qui s'imposent pour justement imposer la paix, excusez-moi la tautologie, dans ces zones caractérisées par des conflits armés. Enfin, par rapport à la récupération du patrimoine culturel africain confisqué pendant la colonisation, comme vous le savez, c'est un combat de longue haleine qui a été mené par justement des théories post-coloniales qui voudraient que, en ce qui concerne tous les patrimoines confisqués durant la colonisation, qu'ils soient restitués aux Africains, aux pays africains. Une loi d'ailleurs a été récemment votée au Parlement français où la France va remettre, je crois bien, aux pays comme le Sénégal et le Bénin leur patrimoine culturel confisqué durant la colonisation. Et ceci remonte au fait que, depuis quelques mois, le président français, le président Macron, avait commandité un rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Et ce rapport a été co-rédigé, si je ne me trompe pas, par l'économiste sénégalais qui s'appellerait Pédine Sarr et l'historienne française qui s'appellerait, si je ne me trompe pas, Madame Sarro. Et donc, ce combat-là, c'est un combat qui a été mené par des mouvements africains, panafricains, qui aujourd'hui est consacré justement par cet élan ou cette volonté exprimée par un pays comme la France à vouloir restituer les patrimoines culturels français. Donc nous encourageons le président de la République à s'engager dans cette bataille qui a été d'ailleurs menée aussi par un des dignes fils de la RDC, en l'occurrence le feu Sindi Kadokolo, qui au cours de sa vie sur terre a mené aussi cette lutte-là, a fait de la restitution du patrimoine culturel son cheval de bataille. Mais je crois que le président de la République peut continuer ce combat-là à la tête de l'Union africaine. Et ce sera un grand retour de la République démocratique du Congo sur la scène internationale, un retour qui justement consacre une voix de la République démocratique du Congo pour booster les choses en faveur de l'Afrique, en faveur des peuples africains.
Les auditeurs sont très très nombreux à appeler sur notre standard. On va commencer par cet auditeur qui nous appelle depuis Kisangani pour vous, professeur Maïla Tchiembe.
Emmanuel Lombo depuis Kisangani, province de la Tchopo. Le seul point positif de l'accession du président Félix Tshisekedi à la présidence de l'Union africaine reste le prestige et l'honneur pour un président congolais d'occuper une si haute fonction continentale. Mais président de la République aura du mal à atteindre ses objectifs, car la politique étrangère d'un pays étant les reflets de la politique intérieure, je ne vois pas le président de la République réussir son mandat à la tête de l'Union africaine, surtout lorsque, sur le plan interne, il peine encore à réaliser ses promesses. Dans un contexte où il ne réussit pas à éradiquer l'insécurité à l'est du pays, avec quels moyens va-t-il faire cesser les armes en Afrique? Je pense que le président de la République accède à cette fonction à un moment crucial où il est l'objet de plusieurs attentes sur le plan interne, ce qui va ipso facto amoindrir ses actions sur le plan continental malgré son discours de bonnes intentions.
Professeur Moïla Tchiembe, qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Emma Lombo depuis Kisangani et quels sont selon vous les enjeux de la présidence de Félix Tshisekedi à l'Union africaine sur le plan national et sur le plan africain?
Ben, disons que dans sa question, il y a deux éléments. Il y a l'élément qui part de postulats des questions internes de la République démocratique du Congo et le rayonnement de la République démocratique du Congo sur le plan continental. Je n'y reviens pas parce qu'il a dit la même chose que nous et nous pensons que c'est une bonne chose. Alors, concernant le mandat d'un an, il faut dire que c'est un mandat symbolique. Attention, il n'est pas le premier à l'assumer. D'autres chefs d'État l'ont déjà assumé et nombreux ont fait des discours, comme il a été rappelé, avec des points tout à fait stratégiques, objectifs, réalistes, mais ce n'est qu'un mandat symbolique. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre des mandats symboliques? C'est tout simplement d'indiquer le chemin, parce que là où il y a la volonté, il y a un chemin. Ce n'est pas mauvais de dire, voilà ce que nous comptons faire, et si nous nous donnons les moyens, comme a dit mon collègue le professeur Mahindo, si on se donne les moyens demain, on peut faire quelque chose. Alors concernant l'inquiétude de notre compatriote sur l'insécurité à l'Est, et le professeur Mahindo en a parlé également, il y a aussi une sorte de, comment dire, le mythe congolais sur l'insécurité à l'Est. Je m'explique. Lorsqu'on entend le discours des intellectuels congolais, il y a plutôt de subjectivisme, un sentimentalisme exagéré et non pas une vision stratégique des questions de l'insécurité à l'Est. Pourquoi dis-je cela? Parce que pour faire la paix, lorsqu'on prend une approche de stratégie, on fait la paix avec les ennemis, on ne fait jamais la paix avec les amis. Le professeur Mahindo a dit, il y a une expérience des tentatives de réconciliation, des accords qui ont été signés, etc. Mais où en sont ces accords? Quel en est le résultat? On peut les positiver, là où on s'est trompé, on peut rectifier le tir. Par exemple, le fait de mettre les miliciens des différents groupements politiques, au départ c'était nécessaire pour faire les SARDC. Il fallait partir de l'amalgame de tous ces miliciens, connus ou inconnus, pour créer les conditions de la paix. Mais cette phase étant passée, on peut passer à la phase de la professionnalisation de l'armée nationale, lui donner les moyens, et d'ailleurs la querelle, oui, le président aurait nommé ou a nommé des généraux, etc., qui ne sont pas des FCC. Voilà la stupidité. Un général, comme officier supérieur d'une armée, on doit le nommer parce qu'il est compétent, il est dévoué, il maîtrise l'art de la guerre. Le fait qu'il soit de telle province ou qu'il appartienne à telle officine réelle ou supposée, ça n'a rien à voir.
Professeur Mahindo, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Bukavu.
Robert Baume de Bukavu, au site Kivu. Je pense que ce programme politique de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine est ambitieux. C'est bon et c'est à encourager. Mais de réussir réellement amènerait nécessairement le président Félix Tshisekedi à relever d'abord un grand défi, celui de trouver les voies et les moyens possibles de pouvoir pacifier et sécuriser comme il faut toutes les parties de l'Afrique en insécurité, comme le Sahel, l'Est de la RDC, l'Éthiopie avec la crise du Tigré, la Mozambique avec la présence du Chebab, etc. Ce défi devrait être une priorité des priorités, sans quoi il sera difficile de faire face aux deux autres priorités qu'il s'est assignées, à savoir la lutte contre la COVID-19 et la récupération du patrimoine culturel africain confisqué pendant la colonisation.
Professeur, un problème de moyens. Tant qu'on n'a pas les moyens nécessaires, il sera difficile pour le président en exercice de l'Union africaine d'atteindre les objectifs qui s'est assignés.
Oui, c'est, ouais, évidemment, c'est
vous l'avez évoqué. Vous l'avez évoqué tantôt dans votre analyse.
Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit tantôt quand j'évoquais la question de l'Union africaine et depuis d'ailleurs l'organisation de l'unité africaine. Tous les chefs d'État se succèdent, mais apparemment ils se ressemblent tous. Ils font de très beaux discours, ils mettent de bonnes priorités que tout le monde apprécie, mais les moyens ne suivent pas parce que les États, les chefs d'État et de gouvernement ne montrent pas de volonté, ne contribuent pas. Il y a beaucoup de pays qui n'arrivent même pas à payer leur contribution statutaire à l'Union africaine. Et il y a eu un moment où la RDC ne pouvait même pas, voyez-vous, les Congolais ne pouvaient même pas concourir à des postes de l'Union africaine, tout simplement parce qu'on avait des arriérés importants de nos contributions. Donc il y en a, si vous voulez, et l'organisation ne peut pas fonctionner sans les moyens. Alors,
il y a cette autre réaction de Max qui nous écrit depuis Lubumbashi, qui vous demande si la RDC peut tirer profit de la présidence de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine.
Oui, bon, voilà. Donc, je pense que la RDC peut effectivement tirer profit de cette présidence. Parce que quand on est président de l'Union africaine, et tous les accords, si vous voulez, les accords entre l'Afrique et les autres partenaires du monde, donc c'est le président qui va représenter, qui va participer à des grandes rencontres, des G20 et autres, tout ça, quand on va inviter l'Afrique, et donc à ce moment-là, ça permet au chef d'État congolais d'également rallonger son carnet d'adresses, mais également de pouvoir poser les problèmes de son propre pays, et ce qui pourrait lui permettre d'avoir de nouveaux moyens pour faire ceci. Donc je pense que, et ça c'est le grand bénéfice qu'on pourrait retirer de ça. Mais en dehors de ça, c'est simplement un bénéfice symbolique, voyez-vous, de dire voilà, nous avons présidé l'Union africaine, les collègues qui est bien rappelé, hein. C'est une fonction symbolique au bénéfice. En un an, on ne peut pas réaliser tout ce qu'il a. Il a dit ici, c'est tout sans moyen. Hein, comment pouvez-vous récupérer le patrimoine africain qui a été pillé par la colonisation? Même si, et là, je ne sais pas si c'est vraiment une priorité ça. La priorité aurait dû être de rapatrier tous les fonds détournés par les Africains, les chefs d'État, les dictateurs et autres élites qui sont logés dans l'Occident et dans d'autres paradis fiscaux. Ça, c'est ce qui apporterait un plus au peuple d'abord, voyez-vous, et pas les œuvres d'art pour le moment. C'est pas que c'est mauvais. Moi-même, je suis un homme de culture. Mais je pense qu'il y a des priorités. La RDC avait loupé une occasion de récupérer les fonds détournés par l'ancien dictateur Mobutu. D'autres pays l'ont fait. Et donc, je pense qu'il y a les choses qu'on aurait pu faire. Ce que nous devrions faire, véritablement, c'est de nous donner des ambitions réalistes. Par exemple, ce que moi je pense, ce serait d'abord réformer l'institution lui-même, pour que l'institution de l'Union africaine puisse être capable de parler d'une voix qui porte et se donner les moyens de son action.
Merci professeur Maïndo. Alain Parfait, on lance une réaction pour vous qui nous vient de Lubumbashi.
Bonjour, Bopé Pakwei. Je vous appelle depuis la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Nous saluons le retour de la République démocratique du Congo au sommet stratégique de cette organisation panafricaine sous la houlette du président Tshisekedi. Et lui demandons de profiter de cette occasion pour redonner au pays sa place de meilleur pays puissant africain après l'avoir perdu. Par ailleurs, nous lui conseillons de matérialiser ses promesses faites à l'Afrique lors de son discours d'investiture et de ne pas faire comme à l'interne. Donc, promettre pour ne pas réaliser. Car, à l'interne, on peut comprendre puisque c'est entre nous et à l'externe, c'est incompréhensible car son échec sera le peuple et l'image de notre patrie sera davantage salie.
Alain Parfait, Ngulungu, brève réaction.
Merci à notre compatriote, je partage avec lui ses soucis, mais je trouve que comme tout Congolais, je voudrais exprimer mes souhaits de succès et de réussite au président de la République, tout en prenant compte les recommandations ou les conseils ligués par d'éminents professeurs qui m'ont précédé pour dire que c'est vraiment une chance pour la RDC. La RDC a là une occasion qu'elle n'aura peut-être pas dans les années à venir pour marquer son retour sur la scène internationale. Et pour bien manager cette présidence symbolique, il doit, le président de la République, bien entendu, il a fait des promesses énormes, et quelles promesses, je ne crois pas qu'il sera à mesure de les réaliser, mais il doit faire ce qu'on appelle un exercice de jeter que le bon sur les grandes réalisations que l'on doit faire pour justement matérialiser la vision 2963 de l'Union africaine. Et parmi ces objectifs-là, il y a lieu de revenir justement pour voir comment assurer la démocratisation des pays africains. C'est le mal de l'Afrique aujourd'hui, la gouvernance démocratique. Plusieurs pays, pour ne pas les citer, ont des sérieux problèmes d'intégration du modèle démocratique dans leur société. Et donc le président de la République, je ne sais pas par quel corne il va prendre, mais il doit absolument, les plusieurs objectifs qu'attendent aujourd'hui sa présidence symbolique à la tête de l'Union africaine, doit absolument s'assurer que, pour en ce qui concerne la gouvernance démocratique, il doit faire quelque chose pour justement assurer la mise en œuvre de cet objectif. En ce qui concerne la pandémie COVID-19, oui, nous voudrions vraiment des réponses rapides parce que même si nous ne sommes pas très affectés par rapport aux pays du Nord, l'Afrique a des conséquences socio-économiques justement résultant de cette pandémie COVID-19 auxquelles nous devons répondre. Des conséquences en ce qui concerne l'accès à l'emploi, en ce qui concerne la croissance économique dont on attend, toutes nos économies actuellement sont à berne. Et donc, sa venue à la tête de l'Union africaine doit amorcer des idées, des propositions pour justement relancer nos économies après la COVID-19. Mais merci. Il y a eu aussi en ce qui concerne la culture.
Parce il faut que conclure, Alain Parfait.
Pour conclure, je dirais que la culture pour nous est, comme le disait, la mère de notre vie en Afrique, et il va falloir absolument travailler dans le sens, justement, pour que notre culture soit restaurée à travers la restitution de ces biens culturels volés durant la colonisation, mais aussi en y ajoutant la proposition émise par mon aîné, le prof Alphonse Mahindo, pourquoi pas rapatrier aussi tout le capital volé par les anciens dictateurs africains. C'est une idée géniale et novatrice qui peut permettre à l'Afrique d'avoir aujourd'hui des capitaux pour relancer leurs économies et pour assurer le développement durable des peuples d'Afrique. Et donc voilà, je crois dans cette optique-là, il aura marqué les pas et a signé en lettres d'or son passage à la tête de l'Union africaine.
Merci Alain Parfait Ngulungu, professeur Moïla Chiembe. Je vous demande d'être vraiment bref, nous sommes à la fin de l'émission. Professeur, qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine?
Mais les Congolais doivent avoir la fierté de voir que leur président assume une responsabilité internationale et qu'à l'avenir, cette position sur l'Afrique qui est dévolue au Congo, chaque Congolais en prendra conscience pour mieux faire dans son domaine afin que le pays rayonne, non seulement en Afrique, mais dans le monde.
Merci, professeur. Professeur Mahindo, votre conclusion?
Alors, ma conclusion, elle est simple. Je suppose que le président va avoir une tâche assez difficile pour faire de l'équilibrisme entre son agenda national, l'agenda africain, mais également pour ne pas blesser les susceptibilités de certains chefs d'État africains sur les problèmes qu'il veut résoudre ici, notamment ce qui concerne la pandémie ou la question de la paix, tout ça. Donc ça va être un enjeu. Mais on lui souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès pour cette initiative.
Merci, professeur Mahindo. Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Dona Madimba. Merci à Martha Sebujangwe qui a supervisé cette émission. Jean-Claude Sial a été à la mise en onde, présentation et coordination Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.